RFE, recevez un message avec le pasteur Josette.
Bonjour bien-aimés, c'est pasteur Josette qui vous parle aujourd'hui et le titre de mon message, c'est « La crainte de Dieu ». Mes amis, la crainte, c'est un mot puissant. La notion de crainte suscite une réponse de pratiquement tout le monde, selon le type de crainte dont il est question. Il y a les craintes malsaines qui affectent notre comportement de manière négative, peur du noir, peur de voler, peur de l'homme. Cependant, il y a une crainte qui, elle, n'est pas malsaine, mais qui peut ouvrir la porte du succès dans nos vies. Et cette crainte dont je vais vous parler, c'est la crainte que nous devrions cultiver dans nos vies. Je vais vous parler de la crainte du Seigneur. Je sais bien que souvent les gens ne veulent pas être enseignés sur la crainte de Dieu. Ils préfèrent être encouragés sur des messages de foi, de prospérité, etc., etc. Mais je voudrais vous encourager aujourd'hui. Dans le livre d'Ésaïe 33, 6, il se trouve quelques mots qui font toute l'indifférence, la différence. Dans Ésaïe 33, 6, il est dit que la crainte de Dieu, c'est le trésor de Dieu qu'il partage avec son peuple. Et bien aimé, si nous réalisons cela, que la crainte de Dieu est un trésor, alors nous allons le chercher comme jamais. Beaucoup semblent croire que la crainte, c'est quelque chose qui vient de l'Ancien Testament. J'ai vu beaucoup de personnes qui agissent comme si on n'a plus du tout besoin de la crainte de Dieu dans nos vies, comme si c'était dépassé. Mes amis, c'est faux, c'est antiscripturaire. Dans le psaume 19, 9, pas une seule fois le Seigneur nous dit que la crainte cesse d'être nécessaire. Au contraire, la crainte de Dieu, elle subsistera toujours. La crainte de l'Éternel, elle doit être dans nos vies toujours et jusqu'à la fin de notre vie. Elle doit être dans l'Église. En d'autres termes, bien-aimés, il n'y a pas un seul moment de notre vie où nous ne devrions pas avoir la crainte de Dieu dans notre cœur. La Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Beaucoup ont des idées négatives en ce qui concerne la crainte du Seigneur. Mais je vais vous expliquer ce qu'est vraiment la crainte de Dieu. Tout d'abord, la crainte de Dieu, ce n'est pas une crainte naturelle. Ce n'est pas la peur que nous expérimentons lorsque nous faisons face à un problème ou une difficulté ou à une maladie. Ça s'appelle la peur. Deuxièmement, la crainte de Dieu, ce n'est pas non plus une peur démoniaque, parce que la peur démoniaque, c'est quelque chose qui est provoqué par un esprit de peur. « Oh, j'ai peur de me faire attaquer, j'ai peur de me faire agresser, j'ai peur qu'on me vole mon porte-monnaie, j'ai peur qu'on vole mon compte en banque, j'ai peur qu'on vole ma carte bleue. » Ça, c'est un esprit de peur. C'est un esprit démoniaque qui nous pousse à avoir peur. Et cela n'est pas la crainte de Dieu. La peur, nous pouvons la chasser dans le nom de Jésus parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Non, la crainte du Seigneur, ce n'est pas cela. Dans 2 Timothée 1,7, nous voyons que Paul va dire que la peur qui nous tourmente vient du diable et qu'elle n'a pas la place dans la vie d'un chrétien. Et voyez-vous, le meilleur remède pour agir contre cette peur, eh bien, c'est la véritable crainte de Dieu. La crainte de Dieu, mes amis, ce n'est pas non plus la crainte de l'homme. En fait, la crainte de l'homme ne vient pas de Dieu. On pourrait dire que pour décrire la crainte de Dieu, c'est une crainte respectueuse, révérencieuse. C'est une crainte qui nous inspire un respect profond pour la personne de Dieu. Cela exprime notre réaction face à sa majesté, face à sa puissance, face à sa sainteté. La crainte, on pourrait dire aussi que c'est la vénération. Qu'est-ce que c'est vénérer? C'est adorer, c'est se prosterner. C'est une réponse à une révélation de Dieu. Et voyez-vous, nous ne pouvons pas vénérer Dieu sans avoir eu une révélation de sa personne dans notre cœur. Lorsque Dieu se révèle à nous, eh bien la seule réponse ça va être la vénération, ça va être l'adoration, ça va être la crainte, le respect. Et puis, viendra la soumission. Parce que la crainte nous pousse à la soumission. Voyez-vous, mes amis, une attitude de soumission envers Dieu, c'est une expression de la crainte de Dieu. Je ne fais pas cela parce que je crains Dieu. Oh, je ne vais pas faire de mal à un tel parce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. Toujours je disais au Seigneur, « Seigneur, je ne me vengerai pas parce que j'ai la crainte de Dieu dans mon cœur. » Et toujours je dis à Dieu, « Seigneur, je préfère être dans la position du persécuté que dans la position du persécuteur. » Et ça, voyez-vous, c'est une attitude de crainte. Lorsque nous n'osons pas faire du mal, nous venger à cause de Dieu, à cause de ce que Jésus nous a dit dans sa parole, eh bien, quelque part, nous marchons dans la crainte et dans le respect de Dieu. Nous n'essayons pas de régler notre situation nous-mêmes. Nous laissons cela entre les mains de Dieu. Quand nous sommes autoritaires, c'est-à-dire moi-je, lorsque nous sommes arrogants, lorsque nous sommes autosuffisants, mais moi je suis, comme beaucoup d'entre nous le sont. Cela, mes bien-aimés, n'a rien à voir avec la crainte de Dieu. Une personne qui se comporte comme cela n'a pas de crainte de Dieu. Voyez-vous, ça ne veut pas dire qu'on doit être comme des lavettes, mais la crainte de Dieu, c'est avoir le respect de Dieu, ne pas dire et ne pas faire des choses qui peuvent blesser le cœur de Dieu. D'abord, j'ai la crainte de Dieu simplement parce que j'aime Dieu de tout mon cœur. Voyez-vous, à la lumière des Écritures, Jésus était pourtant le propre Fils aimé de Dieu, celui qui réjouissait Père dans toute sa vie et tous les jours de sa vie. Cependant, lorsque Esaïe a parlé de l'onction qui serait sur lui pour le désigner comme Messie, comme oint d'Israël, celui qu'on attendait, il a décrit cet aspect du Saint-Esprit qui allait reposer sur lui, sur Jésus. Dans Esaïe 11:1-2, il a dit « Il sortira un rejeton du tronc d'Esaïe et une branche de ses racines fructifiera. » Premièrement, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Et parce qu'il a l'Esprit de l'Éternel, il aura un esprit de sagesse. Il aura un esprit d'intelligence, un esprit de conseil, un esprit de force, un esprit de connaissance. Et pour finir, un esprit de crainte de l'Éternel. Voyez-vous, si Jésus n'avait pas eu la crainte de l'Éternel, il n'aurait pas eu toutes ces choses dans son cœur. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la connaissance. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la force. La crainte de l'Éternel, c'est le début de l'intelligence. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. C'est le début du conseil, etc., etc. L'Esprit du Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit qui parle à la première personne comme Dieu, le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit parle lui-même en tant que Dieu. Jésus était Dieu venu dans la chair. Il était Dieu et il a manifesté sa dignité, qu'il était Dieu avec toutes les œuvres qu'il a accomplies pour le Père. La Bible dit que Jésus était toujours soumis au Père. Il ne faisait rien sans avoir reçu l'approbation de son Père. Pourquoi ? Parce qu'il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Il est dit dans Esaïe 11:3, son plaisir, ce sera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après la vue de ses yeux et il ne reprendra pas selon l'ouïe de ses oreilles. Voyez-vous, bien-aimé, Jésus a été désigné comme le Messie par les 7 formes de l'onction du Saint-Esprit sur lui. La dernière et 7e onction, c'était la crainte de l'Éternel. Et mes amis, si Jésus avait besoin de la crainte de l'Éternel, à combien nous avons nous aussi besoin de la crainte de l'Éternel? Jésus se distinguait toujours par la crainte de Dieu qui était dans son cœur. Il prenait plaisir dans la crainte de Dieu. Alors, combien d'entre vous peuvent oser dire « Je n'ai pas besoin de la crainte de Dieu ». Nous voyons que David, lorsque il a épargné Saül par 2 fois, c'est dans 1 Roi 24, je crois, et 26, Il a dit « Je ne toucherai pas à loin de l'Éternel ». C'est-à-dire il n'a pas voulu marcher sur l'autorité, prendre la vie de l'autorité que Dieu avait établie. Et en quelque sorte, David, c'était la crainte de Dieu qu'il manifestait. Il aurait pu, bien sûr, tuer Saül, puisque Saül était à sa merci. Il aurait pu le détruire, il aurait pu en faire ce qu'il voulait, mais il a eu la crainte de Dieu dans son cœur. Il a attendu que Dieu fasse le travail lui-même. Il savait, Saül, David, qu'il allait être roi, mais il n'a pas essayé de faire les choses en son temps et à sa manière. Nous voyons Joseph aussi, qui avait été vendu par ses frères et qui s'est retrouvé donc chez Potiphar. Et là, nous voyons que la femme de Potiphar a essayé de l'entraîner dans le péché, mais Joseph a refusé. Pourtant, Joseph aurait pu le faire. Personne ne le voyait, personne n'aurait été au courant et il aurait eu en plus des cadeaux de la part de la femme de Potiphar. Il aurait monté peut-être de grade dans le pays où il avait été livré. Mais la Bible dit qu'il a eu la crainte de Dieu et qu'il s'est sauvé. À cause de cela, il a été emprisonné parce qu'il a eu la crainte de Dieu dans son cœur. Voyez-vous, c'est la crainte de Dieu qui nous empêche de pécher. C'est la crainte de Dieu qui nous empêche de faire ce que nous voulons faire avec notre chair. Il y a quelque chose en nous qui nous dit « ne fais pas cela ». Les conditions pour avoir la crainte de l'Éternel, c'est Psaume 34:11 qui nous dit « Venez mes fils et mes filles ». Écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Et quand le Seigneur dit « écoutez-moi », ça veut dire « ne vous contentez pas d'entendre ma parole, mais mettez-la en pratique. Écoutez-moi et mettez-la en pratique. » Oui, nous devons bien aimer entendre parler de la crainte de Dieu et nous devons la laisser entrer dans notre cœur. Si nous écoutons, alors le Saint-Esprit va nous enseigner. Mais si nous ne voulons pas écouter, il ne pourra pas le faire. Au verset 12 et 13 du psaume 34, le Saint-Esprit continue en décrivant le genre de personne que vous devez être pour expérimenter la crainte de Dieu. Il est dit « Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres d'une parole trompeuse. » Voyez-vous, mes amis, je le crois vraiment de tout mon cœur, le premier signe d'une personne qui a reçu la crainte de Dieu se manifeste à travers ses paroles. La manière dont tu utilises sa langue te fera connaître si la personne a la crainte de Dieu ou pas. Est-ce que la manière dont je parle de mon prochain reflète la crainte de Dieu ? Vous avez vu, la Bible dit que David craignait Dieu, il n'a pas osé poser sa main sur Saül, qui pourtant était un mauvais roi et qui apparemment avait été livré entre ses mains. Non, il craignait Dieu et il a manifesté par les paroles de sa bouche qu'il était un vrai serviteur de Dieu. Voyez-vous, parfois les gens vont à droite et à gauche. Et ils racontent des choses sur les serviteurs de Dieu ou sur les enfants de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que quand ils font cela quelque part, ils découvrent la nudité de leurs frères. Et la Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, qu'on doit couvrir le péché des hommes. Non, ça veut dire que si on veut aider la personne qui est dans le péché, nous devons prier pour elle et non pas aller divulguer à droite et à gauche ce que nous avons vu ou entendu. N'est-ce pas ? Si nous faisons cela, si nous allons avec des paroles de calomnie, avec des paroles de médisance contre ceux qui nous entourent, eh bien nous n'avons pas la crainte de Dieu. La crainte, c'est un choix. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 1, le Seigneur parle au peuple qui l'a rejeté et il prononce certains mots qui sont terribles. Nous ne réalisons pas vraiment à quel point Dieu peut être en colère. Nous avons en nous l'image d'une personne douce, courtoise, là-haut dans le ciel, qui ne dit jamais rien de difficile, de dur, de désagréable. Il nous caresse seulement. Mais mes amis, ce n'est pas là l'image de Dieu. Regardez ce que dit le proverbe 1, 25-29, il dit « Puisque vous avez rejeté mes conseils et que vous n'avez pas voulu de mes réprimandes, moi aussi je vais rire quand vous serez dans le malheur. Je vais me moquer quand la terreur viendra sur vous, comme une tempête, et que le malheur arrivera sur vous comme un tourbillon. Quand l'angoisse et la détresse viendront sur vous, alors vous m'appellerez et je ne répondrai pas. Vous me chercherez et vous ne trouverez pas, parce que vous avez haï ma connaissance, parce que vous n'avez pas choisi la crainte du Seigneur. » Dieu nous dit qu'il se moquera de nous si nous n'avons pas la crainte de lui lorsque les problèmes viendront. Puisque nous n'avons pas voulu le chercher quand tout allait bien, alors quand tout ira mal, eh bien, il ne prendra pas garde à nous. Parce que nous avons fait ce que nous avons voulu, quand nous avons voulu et comme nous avons voulu. Et dans Proverbes 1:7, il est dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la connaissance. Et voyez-vous, les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il est dit aussi, ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et écarte-toi du mal. Ne soyons pas, bien-aimés, remplis de confiance en nous-mêmes. Ne pensons pas avoir réponse à tout. Ne pensons pas que nous n'avons plus besoin d'apprendre. Si nous faisons cela, nous ne laissons aucune place pour la crainte de Dieu. Vous savez, même un serviteur de Dieu qui prêche la parole de Dieu depuis 40 ans, il doit toujours se remettre en question. Lorsqu'il écoute la parole, « Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit ? Est-ce que je dois changer ?» Là, c'est comme ça qu'on grandit. Nous ne pouvons pas faire de compromis avec le mal. Et avoir la crainte de Dieu dans nos vies, c'est nous écarter du mal. Parce que Dieu ne peut pas marcher avec un homme qui marche dans le mal. Il marche avec les hommes qui marchent dans la crainte de Dieu. Bien-aimés, nous devons tous faire un choix. Pourquoi allons-nous faire de la place dans notre vie? Pour la crainte ou pour les choses mauvaises? Donc, concernant les passages pour Joseph et pour David, alors Joseph, c'était Genèse 39, 1 à 20. Pour David, c'était 1 Samuel 24, 1 à 7 et 1 Samuel 26, 1 à 11. Donc vous voyez, étudiez ça et vous verrez comment ils ont eu la crainte de Dieu. Pourtant, personne ne les voyait et apparemment, ils avaient vraiment toutes les occasions de pécher sans que personne ne voie rien. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas péché parce qu'ils connaissaient l'Éternel. Et c'est pour ça que Dieu les a bénis abondamment, c'est pour ça que Dieu les a élevés abondamment, parce qu'ils ont marché dans la crainte de l'Éternel alors que personne ne les voyait, alors qu'ils auraient pu faire n'importe quoi.